Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Jean-Gilbert aux animaux. Bonjour. Et Jean-Gilbert, je le répéterai tout à l'heure quand il y aura un peu plus de monde. Mais on vous souhaite un très, 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 très joyeux anniversaire. Facebook nous dit que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Donc on vous salue très chaleureusement. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Marta Lucia, que Dios me la bendiga, hermana. Alors, on est le mercredi 20 juillet. Et oui, ça avance. Bientôt, le mois de juillet sera déjà passé. Bonjour à la belle-mère. J'espère que vous allez bien. À 10 minutes avant de débuter ce matin. Le temps d'aller vous préparer un café, d'aller vous préparer un thé, de vous servir un jus de fruits, voire un verre d'eau. Et ceux qui nous regardent en déjeunant, c'est même l'occasion d'aller faire griller le pain. Gracias, hermano. Et comme la sœur Marta Lucia le fait, c'est un très joyeux anniversaire à notre frère Jean-Gilbert. Jean-Gilbert Cavé. Des voisins à moi parce qu'ils sont dans la ville juste à côté. Qui est en train de boire. Un bruit qui doit déranger la belle-mère. Mais c'est correct. Marie-Marthe, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour au frère Edwin, à la sœur Heidi. Là, on vous rappelle de souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a deux personnes, il y en a une qui n'est pas connectée encore. Il y en a peut-être trois, il y en a une que je ne suis pas sûr. J'arrive pas à trouver l'information. On a le frère Jean-Gilbert, ça c'est confirmé, c'est son anniversaire aujourd'hui. On a aussi la sœur Manon Bernard, l'épouse du pasteur André. Alors, si vous la voyez se connecter tout à l'heure. C'est son anniversaire aussi. Je ne l'ai pas vu se connecter pour l'instant, mais on lui souhaite déjà un joyeux anniversaire. On le répétera dès que je la verrai. se connecter, si elle se connecte ce matin. Et de surcroît à ça, il faudrait peut-être me dire, il me semble que la sœur Rachel, elle a son anniversaire ces jours-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait la date exacte? Bonjour Natacha. Natacha qui ne nous regarde pas aujourd'hui depuis Terrebonne-Mascouche, mais qui nous regarde depuis l'île Maurice. Alors bonjour Natacha, bonjour à Indirène et bonjour à toute la petite famille. Petite, tout à la grande, toute salutation à toute la grande famille, parce que vous êtes nombreux là. J'ai déjà eu l'occasion d'être à un de leurs rassemblements familiales il y a quelques années. Et ça faisait beaucoup de monde dans la maisonnée. Mais c'était très agréable. Et combien on a bien mangé. Bonjour frère Jude. Bonjour Rachel. Alors Rachel, je vais me permettre de te poser la question. Parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est pas ton anniversaire ces jours-ci? Si oui, aurais-tu la gentillesse de nous dire quand a lieu ton anniversaire? On ne veut pas passer à côté. Bonjour Guy. Oh, c'est gentil, Yaoi. Ni hao, Yezu Aini. Et puis bonjour à Emma, à Evelyne. Et puis à Oreo. Qu'il est joli, j'ai vu les photos. J'ai vu certaines de tes photos hier de Oreo. Il est très joli. Bon, alors Rachel, on va attendre vendredi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci d'avoir osé répondre malgré tout. Que Dieu te bénisse, Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Je ne sais pas si la sœur Chantal est avec toi, mais hier, on a souligné son anniversaire. Donc, je ne vous ai pas vu être connecté hier, mais on souhaitait, durant la réunion d'hier matin, on a souhaité un joyeux anniversaire à la sœur Chantal. Donc, si elle regarde l'enseignement d'hier, elle verra qu'on a pensé à elle. Bonjour aussi à Mona et à Chantal et à Ocilia qui sont connectés avec vous aussi, bien entendu. Bonjour à Denise de Laval. Bonjour à Marie-André et à Farley. Donc, on vous rappelle, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux personnes, des fidèles parmi nous. Le frère Jean-Gilbert, c'est son anniversaire. Et puis, c'est l'anniversaire aussi de la sœur Manon, l'épouse du pasteur André Bernard. Donc, on peut leur souhaiter à tous deux, en fait, un très joyeux anniversaire. C'est gentil, Natacha. Que Dieu bénisse ta belle maman. Et puis, à elle et à son époux, un joyeux anniversaire de mariage, un 40e, je pense, qui a été souligné le week-end dernier. Manon, te voilà arrivée. Alors, un très joyeux anniversaire à toi, Manon. Que Dieu te bénisse. Très content que tu sois avec nous ce matin. Alors, surtout, ne manquez pas de souhaiter joyeux anniversaire au frère Jean-Gilbert et puis aussi à la sœur Manon Bernard. Hermana Nancy, que Dios me la bendiga. Encore une ou deux minutes avant qu'on ne débute ce matin. Marie-Huguette, bonjour. Bonjour à Leïka, Gaëlle et aux petites filles. Denise Gérard, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il va faire chaud, très chaud. Avec l'humidex, on dépasse le 40 degrés aujourd'hui. Déjà ce matin, il faisait simplement 22 à l'extérieur au thermomètre, mais avec l'humidex, c'était pénible. Donc, je vous souhaite d'avoir la climatisation à la maison, boire beaucoup, on nous dit, et puis prendre des douches fraîches. Donc, si vous en avez l'occasion, profitez-en bien. Et ça sera pénible pour plusieurs aujourd'hui. Donc, demain, ça devrait se calmer. L'humidité devrait baisser demain. Effectivement, une nouvelle tranche qui commence maintenant. Que Dieu t'aide dans cette nouvelle tranche et qu'il soit avec toi. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Gilles, bonjour Joanne. Tout commencer, mais juste pour ceux qui viennent de se joindre à nous, deux anniversaires aujourd'hui qu'on souligne. Donc la sœur Manon Bernard qui entre dans une nouvelle tranche des 60 ans et plus. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est elle qui l'a dit, donc j'ose juste le répéter. Et puis on a le frère Jean-Gilbert dont c'est l'anniversaire aussi et que l'on salue. Alors à vous deux, que la présence de Dieu soit manifeste dans votre vie, que sa grâce vous soutienne, que vous sentiez sa présence comme jamais auparavant autour de vous. Bonjour à Babette et à Andreas. Bonjour à Bernadette. Alors on va prier et puis on commence la lecture. Vous pouvez déjà ouvrir dans 2 Timothée au chapitre 4, vous connaissez le chapitre, c'est ce qu'on étudie depuis déjà quelques semaines. Alors merci Seigneur pour cette autre occasion que nous avons de nous rassembler, de prendre un temps à part pour plonger nos regards dans ta parole, que ta grâce nous soit accordée, que ta science, ton intelligence, ta connaissance nous soit accordée. Ouvre notre entendement à ta parole, que celle-ci puisse trouver une terre qui a été bien travaillée, bien nettoyé afin de recevoir favorablement ta parole et que celle-ci, Seigneur, puisse grandir, croître dans les conditions optimales. Alors que ta grâce soit accordée à mes frères et mes sœurs et bénis-nous par ta parole et par ta présence. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 6 à 22. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Encore une fois, bienvenue à vous tous. Alors, vous savez que cette semaine, on étudie non plus les personnes qui sont à Rome à côté de Paul pendant son incarcération et alors qu'il attend sa peine de mort, alors qu'il attend que sa peine de mort soit, ou peine à mort, soit exécutée. Il fait mention à Timothée qu'il désire le voir, qu'il lui demande de venir avant l'hiver, non seulement pour apporter le manteau qui lui manque, mais aussi parce qu'il est maintenant seul. Démas, qu'il avait accompagné pendant 15 ans, qui avait été son proche collaborateur pendant 15 ans, qu'il avait suivi depuis l'Asie jusqu'à Rome, est parti. Et il dit à Timothée de donc venir prestement vers lui. La semaine dernière, on a parlé de toutes ces personnes qui sont autour de Paul à Rome. Cette semaine, on étudie ces personnes que lui a placées dans différentes villes, auprès de différentes congrégations, auprès de différentes communautés. Et à l'instar de ce qu'on avait fait pour les personnes qui sont ou qui étaient autour de Paul, on étudie simplement les noms, les prénoms, les surnoms qui sont donnés à chacune de ces personnes, et on se rend compte que ce passage est beaucoup plus riche qu'il n'en paraît à une première lecture sommaire. Si on regarde ce texte en le survolant rapidement, on pourrait dire, bon, c'est juste quelques paragraphes de salutations de la part de Paul envers Timothée, en envoyant les salutations d'autres personnes et en faisant le constat de ceux qui sont près de lui, de ceux qui sont loin, de ceux qui l'ont abandonné. Mais assurément, simplement l'étude des noms, on nous rappelle que la parole de Dieu est riche et profonde, et ça fait trop de, entre guillemets, de hasard dans un même texte avec des mots qui ont une symbolique toute particulière et qui ont un enseignement en soi tout particulier pour dire que c'est tout simplement le fruit d'une coïncidence. Si ces noms sont mentionnés comme ils sont mentionnés dans la langue où ils sont mentionnés, c'est parce qu'ils avaient une signification importante pour celui qui recevait la lettre, Timothée, qui comprenait le sens et la signification de chacun de ses prénoms, mais qui connaissait aussi le caractère qui avait amené l'appellation de ces personnes. On se rappelle que les prénoms ou les surnoms qui sont donnés ici, c'était pratique courante lorsque quelqu'un se convertissait dans l'Église primitive, qu'on changeait son nom en lien avec des choses qu'on voyait en lui, en lien avec une onction particulière ou une révélation que Dieu donnait par rapport à la personne qui se convertissait. Très souvent, on y allait avec des aspects tout particuliers de sa personnalité. Alors hier, on a vu Crescence au verset 10 et Tite aussi. Crescence qui voulait dire celui qui grandit, celui qui croit dans le sens de croître, de croissance, et Tite, celui qui soigne, celui qui prend soin, et d'une façon très imagée, celui qui est l'infirmier des frères et des sœurs. Et dans les deux cas, c'était un enseignement pour nous, savoir s'entourer, oui, de personnes qui sont dans ce processus de croissance perpétuelle, qui sont dans ce processus ou dans cet état d'étudiant de la parole, d'étudiant de Christ, de disciple de Christ de façon permanente, et pour Tite, donc, d'avoir cette attitude altruiste qui devrait être propre au caractère du croyant et du chrétien, qui devrait être un truc significatif dans la vie et dans le témoignage de nous, enfants de Dieu, frères et sœurs en la foi. Donc, d'avoir à cœur de grandir constamment, d'avoir l'humilité d'être toujours dans cet état d'apprentissage constant et d'avoir aussi cette préoccupation d'être constamment dans l'attitude de celui qui soigne. Alors aujourd'hui, on voit les versets 12 et les versets 13. Le verset 12 qui dit « J'ai envoyé Tychique à Éphèse », puis le verset 13 « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Donc, deux personnages importants, Tychique et Carpus. Tichique est un chrétien d'Asie, un ami et un compagnon de Paul. On ne sait pas grand-chose sur Tichique. Oui, son nom apparaît à 7 reprises dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quelqu'un qui, à travers les années, un peu comme Démas, a su marcher à côté de Paul. Paul ne l'a pas gardé auprès de lui jusqu'à Rome, mais la Bible nous dit, et Paul explique à Timothée qu'il l'a envoyé à Éphèse. Et Éphèse est un endroit tout particulier pour Timothée, puisque c'est le premier champ pastoral auprès duquel Timothée va être envoyé. En fait, lorsqu'on regarde la première épître, la première lettre à Timothée, Timothée se trouve à ce moment-là à Éphèse. Et il va dire, je t'ai envoyé à Éphèse pour régler des choses. Donc, Timothée se trouve là. Dans cette deuxième épître qu'on étudie aujourd'hui, ces temps-ci, Timothée se trouve plutôt à Corinthe, une autre église qui a besoin de modifications. Donc, Tichique a été appelé à prendre la suite de Paul, ou à prendre la suite de Timothée, qui lui-même prenait la suite de Paul. Tichique veut dire qui est destiné, qui est destiné, qui a une destinée. Et ça, c'est important pour nous. On doit comprendre que nous sommes tous appelés à quelque chose. Tichique est né avec un mandat, avec un propos, avec un objectif de la part de Dieu, comme nous tous. La parole de Dieu va nous dire, notamment à propos de Jérémie, qu'avant même la naissance de ce prophète, il avait déjà été établi, avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, il avait déjà été établi prophète des nations. Je vais juste prendre une gorgée. Ça veut dire que, avant même qu'il n'existe, Dieu avait un propos, un mandat et un travail à lui confier. Il en est de même pour nous tous. C'est trop malheureux de vivre cette vie que nous avons de ce côté-ci de l'éternité et de penser que nous ne sommes là que pour meubler des années. Aucun d'entre nous n'est né sans un propos divin. Certains vont être appelés au ministère, qui est une chose particulière, mais on est tous appelés à servir Dieu dans une fonction ou une autre, dans une mesure ou une autre. Aucun d'entre nous n'est venu simplement passer du temps ici-bas sur terre. Lorsque Dieu pensait à toi de toute éternité, c'est qu'il avait quelque chose à accomplir avec toi. Il avait une portée de l'avancement de son royaume qui voulait être confié. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aussi vivre avec cette connaissance, avec ce fait acquis dans nos pensées, dans le bon sens du terme, fait acquis, comme quoi chaque jour qui m'est donné, chaque nouvelle journée que je vois, est l'occasion de remplir un plan divin. Ce plan-là a une portée tout à fait sur l'ensemble de la vie, effectivement, mais ce plan de Dieu va aussi dans les détails de chaque journée. Voilà pourquoi il est important le matin, en se levant, de confier la journée qui commence entre les mains de Dieu. Mais pas simplement la confier à Dieu pour qu'il nous bénisse, mais surtout pour que sa volonté, sa pleine volonté à notre égard et à travers nous, puisse s'accomplir. Ne vivons plus comme des gens qui attendent simplement leur mort. Ne vivons plus comme des gens qui attendent simplement que le jour de notre rencontre face à face avec Christ arrive. D'ici là, nous devons nous occuper. Jésus va dire à un moment donné, lorsque à 12 ans il est perdu dans le temple ou oublié dans le temple par ses parents, et que ce n'est que 3 jours plus tard qu'ils reviennent à Jérusalem pour aller le chercher parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils pensaient que Jésus était avec des amis, avec des voisins qui retournaient vers Nazareth. Ils retournent à Jérusalem et puis lorsqu'ils demandent « Mais qu'est-ce que tu faisais ?» Jésus disait, je m'occupe des affaires de mon Père. Je m'occupe des affaires de mon Père. Étant plus âgé, Jésus va, dans son ministère, va même dire, jusqu'ici mon Père agit, moi aussi j'agis. Et à l'instar de Christ, nous devrions vivre nos vies avec ce désir premier, cette vocation première de remplir le mandat de Christ dans nos vies. Certains vont dire, oui, mais Dieu m'a appelé à être notaire, avocat, boulanger, épicier, éboueur dans certains cas, employé d'une corporation, d'une ville, d'une manufacture, enseignant ou autre. Ça, Dieu a ouvert les portes, Dieu t'a placé là, mais ça, c'est simplement une occupation. Ce n'est pas ton mandat. Pendant l'exercice de ton occupation, pendant que tu travailles, effectivement, tu es en train de remplir une fonction pour un employeur. Mais au-delà de cet employeur, tu as un employeur céleste, tu as un maître céleste qui s'attend à ce que tu remplisses ton travail là où il te place. Il t'a placé dans une manufacture, il t'a placé dans un hôpital, il t'a placé dans une corporation, dans une école, il t'a placé même dans un voisinage. Peut-être tu es un peu plus âgé. Il t'a placé dans une résidence pour personnes âgées. Tu as été placé là pour être un témoin pour Christ. Et le premier mandat que tu as, c'est d'être témoin pour Christ. Tu es un étudiant. Tu es peut-être même juste un écolier à l'école primaire. Là-bas aussi, tu as un travail auprès de tes amis, auprès de tes collègues de classe. Dieu ne s'attend pas à ce que tu passes une année sur les bancs d'école sans que tu ne parles de lui. Il te place avec une trentaine d'élèves du même âge que toi, dans certaines classes peut-être jusqu'à 40 ou autre, mais c'est pour que tu sois un témoin pour lui, au-delà du fait d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, d'apprendre des notions qui te serviront plus tard, au-delà de l'instruction normale que tu reçois à l'école. Pendant ce temps-là, tu dois être utile à Dieu. Et l'utilité que tu as pour Dieu, c'est de faire avancer son royaume, de faire connaître sa grâce, de faire connaître Jésus qui est mort et ressuscité pour le salut du pécheur qui passe par la repentance. Alors, Tichik vivait avec cette connaissance de sa destinée. Il savait qu'il n'était pas le fruit du hasard, qu'il n'était pas le fruit simplement de l'amour entre un papa et une maman, entre un homme et une femme. Il savait qu'il était le fruit du plan de Dieu. Foncièrement, Dieu qui existe depuis toujours a toujours pensé à toi. Oui, il a fallu l'année 1940, 1950, 1960, 1970, peut-être l'année 80, 90, 2000, peut-être 2010 pour d'autres qui nous regardent ce matin. Pour la sœur Manon, pour le frère Jean-Gilbert, dont c'est l'anniversaire, l'un et l'autre, c'était il y a un peu plus de 70 ans ou il y a 60 ans. Dieu avait un plan et il savait que vous alliez naître et il voulait que vous naissiez, mais c'était pour accomplir un plan tout particulier. Et la question pour toi et pour moi, lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, pourrons-nous dire que nous avons accompli notre destinée? Il y a des gens qui finissent leur parcours ici-bas sur terre et ils ont ce vide à l'intérieur en se disant « Mais à quoi a servi ma vie ?» Foncièrement, à moins que tu n'accomplisses le plan que Dieu avait pour toi de toute éternité, tu es en train de passer à côté de ta destinée. Tu pourrais trouver le vaccin contre le sida. Tu pourrais trouver le cachet qui nous débarrasse totalement tous et chacun de la COVID-19. Tu pourrais trouver tel ou tel remède, tel ou tel médicament. Tu pourrais faire une percée scientifique qui changerait totalement le cours de l'histoire de l'humanité. Mais à moins que tu ne remplisses ce que Dieu voulait que tu remplisses sur cette terre, tu es malgré tout passé à côté de ta destinée. Et ce vide va rester présent en toi tant que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on a accès au Seigneur, on a accès à la parole de Dieu, on a accès à la présence de notre Père céleste et de notre Maître. Et par conséquent, on peut s'approcher de lui en lui demandant, Seigneur, que veux-tu faire de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Quels sont tes plans pour moi? On peut s'approcher de lui en disant, Seigneur, je ne veux pas passer une journée supplémentaire à faire un peu n'importe quoi. Je veux t'être utile. Alors, Seigneur, dis-moi, comment veux-tu m'utiliser aujourd'hui? Et cette prière devrait être récurrente jour après jour. Dire, Seigneur, je sais que je suis un homme, je suis une femme, je suis un jeune homme, une jeune fille de destinée. J'ai une destinée éternelle qui m'a été donnée par Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi et montre-moi ce que tu veux. Aujourd'hui, en ce mercredi 20 juillet de l'année 2022, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Et plus encore, Seigneur, je suis disposé à accomplir ta volonté. Quoi que ce soit que tu demanderas, quoi que ce soit la chose que tu voudrais que je fasse aujourd'hui, Seigneur, je te dis que je suis d'accord et que je veux faire ce que tu m'appelles à faire. Alors, Tichic, son enseignement, c'est le fait que nous sachions que nous sommes des hommes de destinée, que nous avons été appelés à quelque chose et que nous sommes appelés à faire cette chose et non pas à passer à côté. Carpus va plus loin encore dans le sens de la destinée. Et j'ai fait exprès d'étudier ces deux noms ensemble parce qu'ils sont intimement liés. Tichic, celui qui a un mandat. Carpus, qui est un chrétien de la ville de Troas, on le voit à une reprise simplement, mais on se rend compte qu'il habite Troas, c'est le seul endroit où on va parler de lui. Mais son nom est important. Carpus veut dire celui qui porte du fruit. Celui qui porte du fruit. Ça veut donc dire que les croyants, les chrétiens de la première génération, ceux qui côtoyaient Carpus le regardaient et se sont dit, voilà quelqu'un qui porte du fruit. Un peu comme Crescence qu'on a vu hier, qui était dans ce processus constant de croissance. Ça faisait, il avait été parmi les 70 de Jésus, ça faisait une quarantaine ou une cinquantaine d'années qu'il était converti, il était encore là au service de Paul, et on disait de lui, voilà quelqu'un qui est encore en train de grandir. Quand on parle de Carpus, on regardait Carpus, puis on disait, voici quelqu'un qui porte du fruit. Et c'est important de voir la distinction entre Tichic et Carpus. Tichic veut dire celui qui est appelé. Carpus veut dire celui qui porte du fruit. Il y a des gens qui se limitent durant toute leur vie, durant tout leur cheminement avec Christ, à être appelés strictement. Ils se réjouissent d'avoir été appelés. Mais ils ne passent pas à l'étape suivante qui est de porter du fruit. Et malheureusement, ils passent à côté d'une pleine vérité qui est tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on se rappelle de la parabole des talents. Les talents sont des pièces d'or qu'on utilisait pour le commerce. Et la Bible nous dit, Jésus va parler d'une parabole, d'un maître qui doit aller au loin, qui doit s'éloigner. Et avant qu'il ne s'éloigne, il donne à ses trois serviteurs principaux un certain nombre de talents. Il donne au premier 5 talents. Il donne au deuxième 2 talents. Et il donne au troisième 1 seul talent. Et ce n'est pas parce qu'il préfère celui à qui il a donné 5 qu'à celui qui l'a donné 2, voire qu'à celui qui l'a donné 1. Non, la Bible nous dit qu'il a donné à chacun selon les capacités propres à chacun. Donc, celui qui a reçu 5 talents, c'est parce que le maître savait qu'il pouvait travailler avec ses 5 talents. Celui qui en a reçu 2, c'est parce que le maître savait qu'il pouvait travailler avec les 2 talents. Celui qui n'en a reçu qu'un seul, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait travailler avec cette pièce d'or ou d'argent unique qu'il recevait. La Bible nous dit que le maître s'en va au loin, et là, celui qui a reçu 5 talents va les mettre à profit et va en gagner 5 autres. Celui qui a reçu 4 talents, 2 talents plutôt, va mettre ses 2 talents à profit et va en ramener 2 autres. Et enfin, celui qui a reçu 1 seul talent, contrairement à ses 2 collègues, va aller enterrer son simple talent et le laisser là. Bien du temps plus tard, le maître revient et il demande des comptes à ses serviteurs. Donc le premier avec les 5 talents revient et il en a maintenant 10. Et il dit à son maître, voilà, tu m'en avais donné 5, je t'en ramène 10. Et ça réjouit le cœur du maître. Le deuxième arrive et dit, tu m'en avais donné 2, je t'en ai ramené le double, je t'en ramène 4. Et le maître est heureux. Le troisième arrive et dit, je savais que tu étais un maître exigeant. Donc quand tu m'as donné le talent, je suis allé l'enterrer. Et le maître va lui dire, tu as été paresseux. Tu n'as pas mis à profit le talent que tu avais reçu. Et il va dire, si au moins tu l'avais confié, ne serait-ce qu'à un banquier, à mon retour, j'aurais retiré un peu d'intérêt, mais là, tu l'as laissé choir, enterré, sans que ça profite à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Et la Bible va dire qu'on retire ce talent-là à ce serviteur et qu'on le mette à la porte. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a cette notion d'être profitable pour notre maître, d'être rentable pour notre maître. Dans l'Ancien Testament, de façon un peu plus subtile, on a malgré tout la même doctrine d'être profitable ou de porter du fruit. Dans le psaume qu'on a souvent étudié, qu'on mentionne souvent, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Aujourd'hui, on regarde ça un peu comme tout à l'heure, on parlait du chien de Emma, Evelyne et puis de Yaoi, Oreo, nouveau locataire dans la maison chez eux. On parlait de ce chien-là, je disais, il est joli. Très souvent, on regarde les brebis dans la parole de Dieu et on a cette relation avec la brebis comme nos bien-aimés auraient ce lien avec Oreo. Ou que moi et Daphné, on peut avoir avec Nema. Nos chiens sont, on les aime, ils nous sont précieux, on en prend soin, mais foncièrement, ce ne sont pas des brebis. Un berger n'a pas une relation avec ses brebis comme un propriétaire d'un chien aujourd'hui, ou d'un animal de compagnie aujourd'hui. Une brebis n'est pas un animal de compagnie. Une brebis est un animal qui doit porter du fruit pour son maître. De quelle manière? En donnant de la laine pour faire des vêtements, pour la tisser, puis tricoter avec. En donnant du lait pour en faire du yaourt, pour en faire du fromage, afin de le vendre et de tirer un profit. Voire en engraissant en mettant bas de nouvelles brebis. Donc, en donnant naissance à de nouvelles brebis, en faisant croître le troupeau. Et comme quatrième, en donnant sa propre chair pour la nourriture du berger. Assurément, le berger est un bon berger. Assurément, le berger prend bien soin de ses brebis. Assurément, le berger est là pour protéger ses brebis. Mais le berger n'a des brebis que parce que ses brebis sont utiles au berger. Ce n'est pas une relation comme nous avec notre chat, nous avec notre chien. Non, les brebis sont des animaux qui se doivent d'être profitables. Et voilà pourquoi la notion aujourd'hui de carpus est tout aussi importante. Parfois, on vient à Christ et on ne pense qu'à ce que lui va nous donner. On vient à lui en disant, ben, là, tu dois me protéger, tu dois me nourrir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais il y a un autre côté à la médaille. Qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu? Je pense que c'est Kennedy, Washington, je ne me rappelle plus, Lincoln, je ne me rappelle plus lequel, qui disait « Arrêtez de demander ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Que fais-tu pour Dieu? Lorsque tu portes le nom de Carpus, c'est donc que tu es profitable, que tu portes du fruit pour le royaume de Dieu. Si tu es une brebis dans le troupeau de Dieu, c'est pas pour tout simplement recevoir les câlins du berger. Il faut à un moment donné que tu lui donnes de la laine. Il faut à un moment donné que tu lui donnes du lait. Il faut à un moment donné que tu mettes bas, que tu donnes naissance à d'autres brebis. Il faut à un moment donné que tu serves au profit du berger. Et voilà pourquoi on ne peut pas dissocier Tichic de Carpus. Tichic, c'est l'appel de Dieu. Carpus, c'est la mise en fonction de l'appel de Dieu. C'est devenir profitable pour le royaume de Dieu. Il y a des gens qui veulent s'appeler serviteurs de Dieu, mais foncièrement, ils veulent être servis. Ils s'appellent, oui, je suis un serviteur, une servante de Dieu, mais quand on demande, mais comment tu sers? Ben, ils ont de la misère à expliquer comment ils servent. Comment es-tu utile au royaume de Dieu aujourd'hui? Je te pose la question, comment es-tu utile au royaume de Dieu? Si tu as de la difficulté à répondre à cela, il y a un problème. Il faut que tu saches comment être utile. Et ça, c'est en connaissant pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a créé. Et ça, c'est aussi en accomplissant ce à quoi il t'a appelé et ce pourquoi il t'a créé. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Comprendre que nous avons tous une destinée, que nous avons tous un plan que Dieu veut exécuter à travers nous. Encore faut-il se disposer à être profitable, à porter du fruit pour le Seigneur. Prions. Seigneur, encore un enseignement que j'espère profitable pour nous tous. En tout cas, ça l'est pour moi. Ça m'amène à réfléchir sur ce que je fais et sur la qualité du service que je te donne et sur le fait de m'interroger jour après jour à savoir si je suis en train d'accomplir ce que tu avais planifié, prévu, pensé pour moi. Je prie, Seigneur, qu'il en soit de même pour tous ceux qui nous écoutent ce matin ou qui nous écouteront dans le futur. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent se poser la question à savoir pourquoi suis-je ici-bas sur cette terre? Pourquoi ai-je été créé? Et on a été créé parce que tu avais un plan précis, respectif à chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, quel que soit l'âge, on a Emma, on a Evelyne, on a Leandro qui nous écoute ce matin, on a peut-être d'autres enfants ou jeunes gens qui nous écoutent aujourd'hui. Tu as appelé Jérémie alors qu'il n'était même pas encore formé dans le ventre de sa mère. Tu as appelé Timothée alors qu'il n'était qu'un enfant. Tu t'es servi de David et tu l'as disposé à devenir roi alors qu'il était dans les troupeaux, dans les prairies, à paître les troupeaux de son père, qui n'était encore qu'un gamin, et tu l'as préparé pour un grand service. Seigneur, quel que soit l'âge, tu as des choses à accomplir. Et même lorsqu'on devient âgé, à l'exemple de Caleb, qui avait plus de 80 ans lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Il a dit, voilà, j'ai encore la fougue que j'avais 40 ans plus tôt. Laissez-moi m'emparer de ma montagne. Donnez-moi ma montagne à conquérir. Et je prie, Seigneur, tant pour nos jeunes gens, tant pour nos gens plus âgés et pour ceux entre les deux caps, que nous ne passions pas à côté de notre appel. Que jour après jour, nous te demandions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Quel est le propos pour lequel tu me donnes le souffle de vie encore aujourd'hui? Comme on le prêchait il y a déjà plusieurs années, lors du 40e anniversaire de l'Église, et j'avais prêché en disant, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est que Dieu a quelque chose à accomplir par toi, à travers toi. Alors effectivement, Seigneur, si je suis moi-même encore vivant aujourd'hui, c'est que tu as encore des choses à accomplir à travers moi. Je prie que nous en prenions tous conscience et que nous répondions favorablement et que nous portions du fruit et que nous portions du fruit en abondance. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de toi, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus. Amen. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. On vous rappelle, ce soir, c'est étude biblique. On vous invite à être en grand nombre à l'église pour ce moment important d'étude biblique. Bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont au loin, c'est toujours diffusé sur les plateformes Internet. Mais pour ceux qui en ont l'occasion, faisons un petit effort, soyons là ce soir pour l'étude biblique. Sinon, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Demain, on étudiera le verset 19 où Paul va demander à Timothée de saluer ses concitoyens, donc Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore qui se trouvent tous trois à Corinthe. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous. Vous êtes appelés par Dieu, vous avez une destinée que Dieu a fixé pour votre vie de toute éternité. Je sais que vous êtes capable de remplir ce mandat merveilleux que Dieu a lancé sur votre vie et que vous pouvez porter du fruit et du fruit en abondance. Bonne journée à tous.